Et pendant que vous cherchez ce passage, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'un philosophe peut bien avoir en commun avec une vendeuse, une diseuse de bonne aventure et un gardien de prison? Je vais vous dire ce qu'ils ont en commun. Ils sont tous membres de l'Église de Philippe et ils sont en communion les uns avec les autres. Regardez ce qui est écrit dans les versets 1 à 6. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les membres du peuple de Dieu qui vivent à Philippe, et qui croient en Jésus-Christ, au Seigneur. Pardon, qui croient en Jésus-Christ, aux évêques, un autre mot utilisé pour pasteur, et aux diacres. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Puis Paul dit à cette merveilleuse Église, « Je remercie mon Dieu au sujet de vous tous, chaque fois que je pense à vous. » Et c'est une bonne... C'est une belle phrase pour nous. À chaque fois qu'on pense à un frère et une sœur que Dieu nous a permis de connaître, eh bien, on devrait remercier le Seigneur au sujet de ce frère, au sujet de ce sœur que le Seigneur m'a permis de connaître, maintenant et pour l'éternité. Et ça nous donne un fardeau, ça ajoute un certain poids dans notre cœur pour qu'on puisse prier pour ce frère et pour cette sœur. Et c'est extraordinaire, ça. C'est de se rappeler... Et vous savez ce qui arrive aussi, c'est que quand notre frère et notre sœur n'est pas nécessairement toujours édifiante, ça peut arriver, hein? Ça peut arriver, dépendant de la situation qu'elle vit, eh bien, ça nous permet, parce qu'on l'a à cœur, parce qu'on pense souvent à elle, parce qu'on remercie le Seigneur de nous l'avoir fait connaître, d'aller la trouver, de la reprendre avec amour, et peut-être de lui donner à ce moment-là, pas peut-être, mais de lui transmettre des paroles d'encouragement. Parce que les gens, ils ne sont pas négatifs pour rien. Hein? Ça peut être sa communion avec le Seigneur qui fait défaut, ça peut être sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui fait défaut, ça peut être sa relation avec un membre, avec un frère ou une sœur en Christ qui fait défaut. Mais on est des encourageurs, on n'est pas juste des ambassadeurs, on est des encourageurs en Jésus-Christ aussi. Et Paul dit, « Je remercie mon Dieu au sujet de vous tous, chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie, à cause de la façon dont vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et quand on a un frère qui est sombré dans la négativité et ainsi de suite, Paul nous le dit, regardez ce qu'il dit. Ma joie, c'est à cause de la façon dont vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle. Et peut-être que ce frère et cette sœur qui a perdu sa joie dans le Seigneur, c'est peut-être de lui rappeler l'effet que la bonne nouvelle, lorsqu'il l'a entendue, a produit dans sa vie. Elle a fait de lui un être nouveau. Elle lui a donné une nouvelle espérance. Elle lui a permis de placer sa confiance dans quelqu'un d'autre qu'en elle, c'est-à-dire dans la personne de Jésus-Christ. Et là, on peut tout de suite ramener, rebrancher quelqu'un avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est important, on est des encourageurs, on n'est pas des démolisseurs. Il y en a assez dans le monde qui démolissent. Il y a des téléréalités qui démolissent les gens, qui se moquent des gens, qui abaissent les gens, quoi. Et on n'est pas là pour ça, nous, hein. On n'est vraiment pas là pour ça, on est là pour encourager les gens. D'ailleurs, déjà, tous ceux qui franchissent cette porte ici, ce sont tous des blessés, quoi. Ce sont tous des blessés à différents niveaux. Ça peut être plus grave pour les uns, moins grave pour d'autres. Mais on rentre tous avec nos blessures, hein, dépendant de l'âge qu'on a. Plus on est vieux, plus on a des blessures, qu'on a hérité du monde. Et le monde, on sait que le monde ne nous a pas épargnés pour certains. Mais on n'est pas là pour démolir. On est des ambassadeurs, on est des constructeurs, on reconstruit des vies avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ à travers sa parole. On est vraiment là pour être des encourageurs en Jésus-Christ. C'est ça la famille, hein? C'est ça la famille, hein? Mais mon père, s'il était dur avec moi, mon père, il ne m'a jamais démoli moralement, quoi. Il m'a jamais démoli, quoi. Jamais, jamais. Ma mère non plus, quoi. Il faut vraiment être malade, hein. Il faut vraiment être malade si on est des parents puis qu'on démolit nos enfants au quotidien. Il faut vraiment être malade, quoi. Alors, le Seigneur, on est des encourageurs. Et le Seigneur, à travers sa parole, il ne démolit pas personne. Il prend des vies brisées pour les reconstruire à travers la famille de Jésus-Christ. C'est merveilleux, ça. C'est extraordinaire. Et quand on fait le contraire, on a perdu de vue ce qu'on est en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle l'Église, Jésus construit son Église. On a perdu ça de vue. Et Paul dit, « Vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il ne dit pas « au jour de Jésus-Christ ». Il dit « pour le jour de Jésus-Christ ». Ça, c'est très important, hein? Pour le jour de Jésus-Christ. Quand il va revenir? Pas au jour, pour le jour. Donc, on est en préparation. Et le travail du Seigneur, c'est de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Amen. Et c'est pas facile. Pas facile. Le Seigneur n'épargne pas personne pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Et les épreuves, la souffrance, la douleur, elle est là aussi pour ça. Est-ce que vous savez ce que le mot communion signifie? Ce mot vient du mot grec koinonia, qui signifie quelque chose, c'est-à-dire avoir quelque chose en commun ou vivre une relation privilégiée dépendant du contexte. Frères et sœurs, en lisant l'Épître aux Philippiens, vous découvrez que l'apôtre Paul, qui était un enseignant, un philosophe et un voyageur, eh bien, que Lydia, qui était une vendeuse à Thyatire, que la servante possédée d'un mauvais esprit, et que le geôlier de Philippe avaient en commun ce que nous avons en commun aujourd'hui, Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Pourquoi sommes-nous ici ce matin? On n'est pas ici simplement pour chanter des cantiques. On n'est pas ici pour partager ou entendre un sermon. Nous sommes ici parce qu'une personne qui s'appelle Jésus-Christ nous a donné rendez-vous ce matin parce que Jésus-Christ veut s'adresser à chacun d'entre vous, veut s'adresser à moi ce matin. Il est ici au milieu de nous, on l'a dit tantôt, et il veut nous parler à travers son esprit. La parole, elle est esprit et vie, et si on veut ouvrir nos oreilles, les oreilles de notre cœur, eh bien cette parole qui est esprit et vie, elle va venir faire son chemin, elle sait ce que nous avons besoin d'entendre, elle sait ce que nous avons besoin pour réparer peut-être des choses qui nous font souffrir aujourd'hui. Le Seigneur, c'est le médecin par excellence. Et vous devez, si c'est pas votre, si vous doutez ce matin, bien, la première prière que vous devez faire, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon aide, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Augmente la mesure de ma foi, si c'est votre cas ce matin. Mais Dieu a quelque chose, une portion pour chacun de vous ce matin. Amen. C'est important que vous ayez cette certitude dans votre cœur. Ce Jésus qui habite en moi par son Saint-Esprit m'aime, et ce Jésus qui habite en vous vous aime. Et celui qui a fondé cette Église, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous saviez cela? Ce n'est pas des hommes qui ont fondé l'Église. C'est Jésus-Christ qui a fondé l'Église. Il a utilisé des hommes, mais c'est Jésus-Christ qui l'a fondé. Et lorsque nous rassemblons dans cette communion et dans cette unité que nous retrouvons en Jésus-Christ, nous sommes alors appelés l'Église, nous sommes alors appelés la famille de Dieu. Et j'aimerais maintenant dire que la plus grande organisation qui existe sur toute la surface de la terre, c'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne commettez jamais l'erreur de parler en mal de l'Église, même si elle n'est pas parfaite. Vous devez vous rappeler que l'Église est l'épouse de Christ et que Jésus protège en tant qu'époux, protège son épouse, et que si on parle en mal de l'Église, tôt ou tard, l'époux va intervenir. Amen. Écoutez, dans la vie courante, si un mari, en tout cas un mari qui aime sa femme, s'il voit qu'on maltraite sa femme, s'il voit qu'on abuse de sa femme, vous pouvez être certain d'une chose, un époux qui aime sa femme, il va intervenir. Il va réagir pour la protéger. Qu'il soit chrétien ou pas, peut-être que les réactions seront différentes, mais il va intervenir pour venir en aide à sa femme. Le Seigneur Jésus-Christ, il est l'époux. Nous sommes l'épouse en tant que l'Église. Et ne parlons jamais, jamais en mal de l'Église, même si elle n'est pas parfaite, même s'il y a des défauts, même s'il y a des péchés des fois qui arrivent, qui surgissent dans l'Église. Rappelons-nous toujours que la tête, c'est Jésus-Christ, que le chef, c'est Jésus-Christ, qu'il est l'époux et que l'Église, c'est son épouse. Et nous faisons partie de l'Église. Amen. Donc, le Seigneur Jésus prend soin de nous. Le Seigneur Jésus veille sur nous. Le Seigneur Jésus, il nous protège. J'espère que c'est une certitude dans votre cœur ce matin. Vraiment qu'une certitude. Ce matin, j'aimerais parler de l'Église, cette organisation ou cet organisme, si vous préférez, qui est vraiment la famille de Dieu. Et il nous arrive de chanter le cantique 163, pardon, et on l'a chanté tantôt dans le livre des cantiques de l'Église, qui dit « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père, nous partageons nos biens, nos joies, nos fardeaux, nous sommes sœurs et frères. » Et c'est ça la famille. C'est ça la famille, quoi. Quand mon frère avait un problème à la maison, il venait m'en parler. Et j'essayais de lui donner des conseils en tant que frère aîné. Ma sœur, quand elle avait des problèmes, elle venait me parler. Si elle avait des questions, elle venait me trouver pour essayer de trouver des réponses. Et si je n'avais pas les réponses, je la référais à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, la famille. C'est ça, la famille. Alors, on n'est pas, c'est pas des petits groupes qui sont isolés dans la maison. La famille, c'est un tout. La famille, c'est indivisible. Indivisible, c'est un tout, la famille. Alors, s'il y a des gens que vous n'êtes pas habitués à rencontrer, allez les saluer ce matin après le culte. Allez leur dire bonjour. Allez leur dire comment vous les aimez en Jésus-Christ. C'est important. C'est important. Il n'y a rien de pire de quelqu'un qui rentre dans une église un dimanche matin et qui repart sans avoir reçu les salutations de personne. C'est épouvantable. C'est ce qui se passe dans le monde. Et l'Église est différente du monde. Et Jésus-Christ n'a pas été indifférent envers qui que ce soit. Lorsqu'il était sur la terre, on ne peut pas nous vivre, manifester cette indifférence, nous non plus, si on appartient à Jésus-Christ. On doit se rappeler quand on regarde à gauche, quand on regarde à droite, que le Seigneur aime autant mon voisin de gauche que mon voisin de droite qui m'aime. Ça, c'est important pour nous, ça. Il y a trois choses que j'aimerais partager avec vous ce matin dans les six premiers versets du chapitre 1 de la famille de Dieu, mais on va regarder juste un point ce matin pour éviter que vous partiez trop tard. Mais on va regarder un point, on regardera les deux autres points la prochaine fois. Aujourd'hui, il y a des séminaires qui se tiennent à travers l'Europe pour enseigner comment implanter une église. Chers amis, cela ne m'intéresse pas de mettre sur pied une église parce que ça ne me regarde pas. Je ne construis pas l'Église, vous ne construisez pas l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Jésus peut m'utiliser, mais ce n'est pas à moi à construire des Églises, ce n'est pas à moi à fonder des Églises, c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. La formation d'une Église, elle est surnaturelle. Jésus n'a pas dit, je bâtirai votre Église, il n'a pas dit, vous bâtirez mon Église, il a dit, je bâtirai mon Église. Et vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ. Tournez maintenant dans Actes chapitre 16. Parce que vous ne pouvez pas comprendre d'où proviennent ces chrétiens de Philippe, à moins de revenir dans le chapitre 16 du livre des Actes, où nous trouvons les informations nous expliquant comment Dieu a bâti cette église de Philippe. Et j'aimerais, pendant que vous tournez, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment le Seigneur Jésus a bâti cette église à Philippe, afin que nous puissions comprendre comment il veut bâtir l'église à Dlin, comment il veut bâtir l'église à Bruxelles, comment il veut bâtir l'église à Paris, comment il veut bâtir l'Église à Amsterdam? Comment il veut bâtir une Église en Chine ou n'importe où ailleurs? Comment Jésus bâtit-il son Église? Et la première chose qu'on va voir dans la lecture du texte ici, c'est que Jésus bâtit son Église, premièrement, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est surnaturel, la construction d'une Église. Jésus bâtit son Église avec l'aide du Saint-Esprit. Versets 6 et 7, Paul était un missionnaire qui se déplaçait à différents endroits pour implanter des églises. Et regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 16, versets 6 et 7. « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans la province d'Asie, ils traversèrent la région de Phrygie de Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils essayèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin, Seigneur, de la puissance de ton Saint-Esprit ce matin afin que tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, comme nous l'avons dit il y a quelques instants, Seigneur, nous avons tous des besoins. Tu connais nos besoins. Et Seigneur, toi seul, Seigneur, peux combler ces besoins dont notre cœur a si besoin. Seigneur, que tu puisses parler à mes frères, à mes sœurs ici présentes ce matin. Que tu puisses aussi parler avec puissance à ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore ce matin, afin qu'ils puissent recevoir ta joie et ta paix. Ta joie et ta paix, Seigneur, qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Bénis cette parole, Seigneur, parce qu'elle est la tienne ce matin, et que nous puissions sortir d'ici fortifiés et grandis. Et c'est en Jésus-Christ que nous te demandons ton aide. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Paul et Silas sont des missionnaires, ils ont à cœur les perdus, ils aiment Dieu, ils veulent aller implanter une église en Asie. Mais le Saint-Esprit ne leur permet pas, c'est ce que le texte biblique nous dit ici. Pourtant, l'Asie avait besoin d'entendre l'Évangile. Mais Dieu est un fin stratège. Il avait un plan. Et il va dire à Paul, « Paul, je ne veux pas que tu ailles en Asie. » Et il l'empêche d'y aller. Frères et sœurs, on ne choisit pas l'endroit où nous allons servir Dieu. Je n'ai pas choisi de venir à l'église de Dlin. C'est lui, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Et je crois de tout mon cœur que c'est lui qui m'a appelé à le servir ici. Un prédicateur a dit ceci un jour. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gens qui sont partis servir Dieu alors qu'ils n'avaient pas été envoyés. Nous avons besoin de reconnaître à quel moment Dieu dit « Oui, tu peux y aller » et à quel moment Dieu dit « Non, je ne veux pas que tu y ailles. » Paul avait à cœur les perdus, il cherchait à faire la volonté de Dieu et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit pouvait le diriger. Il est dirigé et frères et sœurs, il est difficile de diriger un navire qui ne bouge pas, n'est-ce pas? Mais Paul était quelqu'un qui bougeait constamment. Il avait besoin que le Saint-Esprit le guide. L'apôtre Paul nous veut donc connaître la volonté de Dieu et il va se rendre en Bithynie. Mais l'Esprit lui dit, « Non, Paul, tu ne peux pas aller en Bithynie, je veux que tu ailles en Asie. » Le psalmiste dit, « Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. » Psaume 37, verset 23. Mais vous pourriez aussi dire que le Seigneur peut empêcher un homme qui pratique le bien d'avancer. C'est le cas de Paul ici. Combien de gens, malheureusement, s'impliquent dans beaucoup de choses en demandant à Dieu d'approuver ce qu'ils sont en train de faire, alors que ce qu'ils font, c'est eux-mêmes qu'ils ont choisi de le faire sans chercher à connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont toujours voulu faire, mais c'est en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ont de la difficulté à avoir cette paix, cette joie dans leur cœur, parce qu'ils font des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Paul, s'il s'est entêté, le fait qu'il est empêché d'aller en Asie, il aurait pu dire, c'est le diable, c'est mon ennemi le diable qui m'empêche. Mais Paul avait une communion avec le Seigneur, et Paul ne voulait pas faire ce qu'il aimait, il voulait faire la volonté de Dieu. Et il est à l'écoute du Saint-Esprit. Et il a écouté le Seigneur, et il s'est rendu là où le Seigneur lui a demandé d'aller. La première chose à se rappeler pour tout ce qui concerne une église, c'est que tout doit être placé sous le contrôle du Saint-Esprit. On oublie le Saint-Esprit, nous les baptistes. Hein? On est en réaction avec les milieux charismatiques et souvent on réagit fortement. Hein? Mais le Saint-Esprit, si on n'a pas le Saint-Esprit, on travaille en vain. Hein? On travaille en vain. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Hein? C'est le Saint-Esprit qui habite en vous. On ne peut pas le renier. Hein? Il est vivant. Hein? Si Jésus est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Hein? C'est une des trois personnes de la Sainte Trinité, quoi. De la Trinité. Hein? Une triunité, si vous préférez. Mais l'Église doit être toujours sous le contrôle du Saint-Esprit pour pouvoir avancer. Quand elle se place sous le contrôle des hommes, c'est là qu'il commence à avoir des vagues, des tempêtes, et on perd de vue la vision que Dieu a pour son Église. Pourquoi? Parce que c'est plus l'Église de Dieu, c'est mon Église. C'est plus Christ qui l'a bâti, c'est moi qui l'a bâti. Et là, tôt ou tard, on va frapper un mur. Hein? Tôt ou tard, on va frapper un mur. Mais ici, la première chose qu'on voit à travers Actes chapitre 16, c'est l'Église doit être toujours sous le contrôle du Saint-Esprit, d'où l'importance de la prière. D'où l'importance de la prière, pas juste pour les membres du conseil, mais pour les frères et sœurs, pour que les frères et sœurs prient pour que les membres du conseil aient cette sagesse, cette intelligence de pouvoir, les choix qu'elle fait, bien que ce soit vraiment pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui l'a bâti. C'est lui qui l'a bâti. Amen. C'est important, ça. Hein? C'est important. Si vous enseignez à votre enfant à conduire et que celui-ci n'est pas intéressé à savoir où sont les freins, vous ne serez sûrement pas intéressé à lui montrer où se trouve l'accélérateur, n'est-ce pas? De même, si nous ne pouvons pas écouter Dieu lorsqu'il dit non, quel droit avons-nous de nous attendre à ce qu'il dise « allez » alors qu'il nous dit de ne pas aller? Premièrement, non seulement Jésus bâtit son Église sous le contrôle du Saint-Esprit, mais deuxièmement, il bâtit son Église sous l'influence du Saint-Esprit. Versets 9 et 10. Dieu ne tente pas Paul ici, regardez le texte. Dieu ne tente pas d'empêcher Paul, au contraire, il le guide. Regardez. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un homme de Macédoine, debout, qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens nous aider. » Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à y annoncer la bonne nouvelle. C'est Dieu ici qui réoriente Paul dans une autre direction. Chers amis, voici ce que j'ai appris il y a longtemps. Si Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donnera au-delà de ce que vous voulez. Dans une prédication que j'ai visionnée sur YouTube, le pasteur Ed Solomon, a dit ceci, « Dieu ne m'a jamais... » Écoutez, je regardais la réaction des gens en plus, hein, sur l'écran. « Dieu ne m'a jamais donné tout ce que je voulais. » Je me suis dit, un prédicateur ne devrait jamais dire cela devant des membres. Il prêcha ce jour-là devant des étudiants de l'université où il avait étudié. Il ajouta ceci, « Dieu ne m'a pas permis de faire mes études dans l'école où je voulais. » Je voyais les gens qui se regardaient les uns les autres. Puis il continua, « Dieu ne m'a jamais permis de devenir le pasteur de l'Église où j'aurais toujours voulu exercer mon ministère. » Certains des membres de son Église étaient présents et on pouvait voir qu'ils étaient mal à l'aise d'entendre ces paroles. Puis il ajouta, « Dieu ne m'a même pas laissé marier la femme que j'aurais voulu marier. » Et je voyais sa femme qui était dans le premier banc, quoi. Elle avait un visage bizarre. Hein? Il y avait un cadre vraiment étrange qui régnait dans la salle. Vous auriez pu entendre une mouche voler. Puis il termina son message en disant, « Mais Dieu m'a toujours donné au-delà de ce que je lui ai demandé. » Ouais. Quand on veut faire notre volonté, hein, on se contente souvent du quart ou du demi de la part que Dieu avait en réserve pour nous. Et on est toujours perdant. Mais quand on cherche à faire la volonté de Dieu, on reçoit toujours au-delà de ce qu'on a demandé au Seigneur. C'est ça la bénédiction de se placer sous l'influence du Saint-Esprit, mais aussi de chercher à faire la volonté de Dieu. On n'est jamais perdant avec Dieu. Jamais. Dieu ne sera jamais en dette envers aucun de ses enfants. Jamais. Dieu ne perdra jamais son nom pour un de ses enfants. Au contraire. Dieu vise toujours à être élevé et glorifié. Il va vous donner au-delà de ce que vous avez demandé. J'espère que c'est votre certitude dans votre cœur ce matin. Vous avez demandé quelque chose à Dieu. Dieu vous a dit non. Attendez-vous à recevoir au-delà de ce que vous avez demandé. C'est pour ça souvent aussi que la prière, elle tarde. Vous allez recevoir au-delà de ce que vous avez demandé à Dieu. Voilà comment Dieu agit. Si Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donnera au-delà de ce que vous voulez. Et Dieu vous accordera ce que vous voulez si vous avez une bonne raison pour l'avoir. Et vous êtes, pouvez être certain de cela. Et la seule raison pour recevoir de Dieu, pour voir nos réponses être répondues, voir nos prières être répondues, c'est qu'il soit glorifié. C'est toujours d'être glorifié. Toujours, toujours, toujours le but des prières. On prie pour la salut de nos enfants. C'est évident que quand nos enfants viennent au Seigneur, Dieu est glorifié. Il y a un miracle qui se produit, là. Il y a un miracle qui se produit. Dieu est glorifié. Et Dieu va répondre à votre prière. Continuez à prier. Mais assurez-vous que vous faites la volonté de Dieu dans vos vies. Assurez-vous que vos vies sont dignes de ce que le Seigneur nous demande de vivre. C'est important, ça aussi. Ici, le Saint-Esprit va juste rediriger l'apôtre Paul dans une autre direction afin de lui permettre d'annoncer l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement dans la province d'Asie, mais dans toute l'Europe. Paul écrit, verset 10, « Nous avons cherché aussitôt pour la Macédoine. » Alors, on a vu premièrement que Dieu bâtit son Église sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous avons vu deuxièmement que Dieu bâtit son Église sous l'influence du Saint-Esprit. Et troisièmement, Dieu bâtit son Église par la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous que nous parlons du fait que c'est Jésus qui bâtit l'Église lorsque nous lui obéissons. Versets 13 à 15, par la puissance du Saint-Esprit. Regardez maintenant, nous allons découvrir ceux qui ont été sauvés. Par exemple, une femme qui s'appelle Lydie a été sauvée. Le jour du sabbat, le texte nous dit, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Donc, Paul avait probablement posé quelques questions à droite et à gauche. Et on lui a dit, écoute, tel jour de la semaine, le jour du sabbat, il y a des femmes qui se réunissent à telle place. Ils ne sont pas dans la synagogue, ils sont au bord de la rivière et puis ils se réunissent ensemble puis ils font une réunion de prière. Et le texte nous dit, eh bien, Paul s'est rendu sur les lieux. Il dit, nous nous sommes assis, nous avons parlé aux femmes qui s'étaient assemblées là pour tenir une réunion de prière. L'une de ces femmes s'appelait Lydia, elle venait de la ville de Thyatire. C'était une marchande de précieuses étoffes rouges ou de pourpre. Donc, les étoffes rouges, c'était le pourpre, c'était quand même un tissu de grande qualité. Alors, ça laisse sous-entendre que c'était quand même une personne qui avait une certaine richesse. Alors, mais le texte nous dit, malgré qu'elle était riche, eh bien, elle craignait Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous obligea à accepter. Paul s'était dit, il va y avoir une réunion de prière au bord de la rivière, nous allons y aller. Rappelez-vous qu'il agit avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il est dirigé par l'Esprit et qu'il est sur le point de voir la puissance du Saint-Esprit agir dans le cœur de cette femme. Au bord de la rivière, il y a là une femme d'affaires, une marchande de pourpre. Elle venait de la ville de Thyatire, située en Turquie, connue pour ses tissus très chers. Et Lydia était une personne religieuse qui craignait Dieu, verset 14. Elle écoutait Paul prêcher le message de l'Évangile. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur parce qu'elle était attentive aux paroles que Paul lui disait. Il n'est pas mentionné de quelle façon le Seigneur ouvrit son cœur, mais nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a écouté les paroles qui sortaient de la bouche de Paul, et c'était des paroles de l'Évangile. Et les paroles de l'Évangile ont fait son effet parce que son cœur était ouvert. Et c'est en entendant l'Évangile que les cœurs peuvent s'ouvrir et être réceptifs au message de Jésus-Christ. Nous savons que l'Évangile est la puissance dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Autant les enfants de chrétiens, autant les non-croyants, c'est la puissance dont Dieu se sert pour sauver quiconque croit. Il révèle la bonté de Dieu qui doit amener les gens à la repentance, dit l'apôtre Paul. Voilà pourquoi nous devons prier, voilà pourquoi nous devons chercher Dieu lorsque l'Évangile est annoncé, parce que l'Esprit agit pour convaincre les gens et les amener à se repentir et à se convertir. Frères et sœurs, c'est pour ça que nos paroles, peu importe les belles paroles, peu importe le bien qu'on essaiera de faire aux gens, on ne convertira jamais, jamais personne. C'est la parole de Dieu qui convainc les gens de péché, de justice et de jugement. Et c'est de mal aimer les gens, de leur épargner d'entendre le vrai message de l'Évangile. Il y a deux messages, hein? Il y a le vrai message de l'Évangile et il y a le faux message de l'Évangile. Le faux message de l'Évangile vous dit que Jésus vous aime et qu'il continuera toujours à vous aimer. Mais le faux message de l'Évangile exclut toujours cette partie-là ici. C'est la croix qui amène les gens, qui attire les gens. C'est à la croix que Jésus attire les gens pour qu'ils puissent recevoir le pardon, pour qu'ils puissent être réconciliés avec Dieu et trouver la paix dont l'homme cherche tellement, l'homme et la femme cherchent tellement dans ce monde. C'est la croix. Voilà pourquoi Paul disait que quand il était avec telle église, j'ai toujours cherché à prêcher Jésus-Christ crucifié, mais il dit, ressuscité, mais ça laisse sous-entendre que c'était avant d'être ressuscité, il était crucifié. Mais Paul se concentrait, avec toute la connaissance qu'il avait, il se concentrait à prêcher le message qui touche à la personne de Jésus-Christ. Pour l'enseignement, c'était pour l'Église. Il gardait un enseignement à l'Église, aux chrétiens de l'Église, mais dans son message d'évangélisation, il ne s'est jamais éloigné. Écoute, ce n'est pas moi que tu dois rencontrer, c'est Jésus-Christ que tu dois rencontrer. Moi, je ne peux pas te transformer. Il y a une personne qui peut te transformer, c'est la personne de Jésus-Christ. Et si on est convaincu que Jésus-Christ est ressuscité et qu'on vit les effets de la résurrection, frères et sœurs, on va avoir un impact dans la vie des gens. On va avoir un impact. Amen. Non seulement Lydia fut sauvée, mais une servante qui était possédée fut également libérée. Regardez ce qui est écrit au verset 16. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vient à notre rencontre. Il y avait en elle, 16 à 18, hein, il y avait en elle un esprit mauvais qui la poussait à prédire l'avenir et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres en faisant des prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit à l'instant même. Quel était le problème avec ce qu'elle disait? Ce qu'elle disait était vrai, mais ce qui n'allait pas, et c'est ce qui n'allait pas en fait. Parce que Paul ne voulait pas qu'on associe son ministère avec l'occultisme et les pratiques démoniaques du diable. Et c'était là une stratégie du démon pour essayer de faire paraître l'apôtre Paul un peu plus démoniaque et de rendre les démons un peu plus spirituels aux yeux des gens. Et quand vous regardez, c'est le diable qui parle à travers elle, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Il faut le faire. Ceux qui annoncent le faux évangile, c'est exactement ça. Hein? Ce n'est pas Dieu qui parle à travers leur bouche. Ce n'est pas Jésus. Hein? C'est le malin. Hein? Et souvent, ce sont des gens qui, quand on gratte un peu dans leur vie, on s'aperçoit qu'ils sont associés à toutes sortes de choses, hein? Qui touchent à différentes choses. Pour aller chercher une puissance dans ce qu'ils prêchent. Mais la puissance, ils vont la chercher en dehors de la personne de Jésus-Christ. Paul était tellement irrité ici qu'il chassa l'esprit mauvais au nom de Jésus et la servante fut libérée de cet esprit mauvais. Chers amis, j'aimerais vous rappeler que cette marchande ambulante de Thyatire qui craignait Dieu, qui fut sauvée, ainsi que cette servante qui était habitée par un mauvais esprit qui a été purifiée, devint tous les deux des premiers membres de l'Église de Philippe. Avez-vous réalisé avec quoi le Seigneur Jésus bâtit son Église? Je vais vous le dire en français courant. Le Seigneur Jésus, il bâtit son Église avec une bande de pourris. Il y en a qui sont plus pourris, il y en a qui sont moins pourris, mais ça n'empêche pas qu'on est tous pourris. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas qu'on est pourri tant aussi longtemps qu'on n'entend pas l'Évangile. Ça fait mal le mot pourri, hein? Mais ça fait moins mal qu'entendre le mot péché pour certaines personnes, hein? On a tellement une autre opinion de nous-mêmes, quoi. Mais c'est avec ces gens-là que le Seigneur Jésus construit son Église. Et êtes-vous capable de le louer ce matin pour dire, écoute, merci de construire ton Église, Seigneur Jésus, avec un gars comme moi, avec une femme comme moi. Je reconnais que c'est une grâce. Moi, je peux lever la main et dire que j'étais pourri jusqu'à la moelle. Et dans son amour, dans sa grâce, Jésus a eu pitié de moi. Et c'est avec ça que le Seigneur travaille. Et c'est avec ça qu'il se glorifie. Et c'est avec ça qu'il fait grandir son Église. Et c'est avec ça que ça s'est répandu partout sur la terre. Vous imaginez? C'est extraordinaire. Je vous parle du mot pourri. J'espère que ça ne vous choque pas parce que le Seigneur a dit qu'il n'était pas venu pour les justes, pour ceux qui n'étaient pas pourris. Il est venu pour les perdus, les pécheurs. Alors, si vous faites partie de l'Église, c'est que vous avez levé la main un jour ou dans votre cœur, vous avez confessé que vous étiez pécheur, que vous étiez perdu, même peut-être une cause perdue. Et Dieu en Jésus-Christ est allé vous chercher. Il vous a sorti de la boue pour vous dire qu'un jour, vous allez monter sur le trône avec lui, que vous allez partager son trône, c'est ce qu'Apocalypse nous dit. C'est incroyable, hein? Voilà la belle image du potier. Voilà la belle image du potier. Et peu importe ce qu'il fait avec ce vase que vous êtes, le but à l'intérieur, peu importe la forme qu'il lui donne, le but intérieur, c'est qu'on ressemble tous à Jésus-Christ. Merveilleux, n'est-ce pas? Extraordinaire, quoi. Ah! Oh. Hein? Si on ne se retenait pas, on pourrait déjà prendre un moment pour louer le Seigneur ce matin. Le remercier tout de suite, là. Merci, Seigneur, d'avoir pitié de moi. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci d'avoir placé un chrétien qui a osé ouvrir la bouche, quoi. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur Jésus a sauvé cette servante comme il a sauvé Lydia. Et c'est avec ce genre de personnes venues de milieux différents que l'Église de Philippe a vu le jour. Regardez maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va être sauvé. Lydia est sauvée. La femme qui était possédée est sauvée. Et voilà maintenant qu'un geôlier était sauvé. Bien, rattrapez-vous dans le contexte de Rome. Les geôliers, c'était des gens là, qui n'avaient pas de cœur. Ils n'avaient pas de cœur parce que si un prisonnier se sauvait, s'évadait, c'était sa vie qui en dépendait à lui. C'était des gens qui étaient durs. Et ça, c'est la troisième personne qui va faire partie de l'Église de Philippe. Paul et Silas ont été battus, placés dans la partie inférieure de la prison, nous dit le texte. On a placé leurs pieds dans des blocs de bois. Ils avaient le corps meurtri par les coups. Ils étaient épuisés et ils souffraient beaucoup. Qu'est-ce que Dieu va accomplir à travers leurs souffrances? Qu'est-ce que Dieu va accomplir à travers vos souffrances, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu accomplit à travers vos souffrances? Regardez ce que Dieu accomplit à travers ces deux hommes-là, à travers leurs souffrances, leurs douleurs, leur épuisement. Ils ne se plaignent jamais. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est des louanges à la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que leurs yeux sont fixés sur celui qui les a sauvés et non pas sur leur propre carcasse. Quand nos yeux sont tournés vers nos souffrances, frères et sœurs, on oublie tout le reste. On fait donc pitié. Et là, on commence à parler pour que les gens nous prennent en pitié. Mais ce n'est pas ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin que les gens nous prennent en pitié. Paul et Silas priaient, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte. S'il leur était impossible de dormir avec ces blocs qu'ils avaient aux pieds, il ne leur était pas impossible de prier. C'est la seule chose qu'ils pouvaient faire et ils l'ont fait. Frères et sœurs, ça m'est déjà arrivé, hein, mais simplement vous amener à réfléchir. Quand ça ne va pas, hein, quand l'Église des fois ne répond pas à nos besoins, quand on s'est accroché avec un frère, quand on ne lit pas la parole depuis 5 mois, hein, qu'est-ce qu'on fait? On est triste, on a perdu notre joie. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On se plante devant la TV, souvent on allume la TV, puis on peut regarder un film, 2 films, 3 films. Un match, 2 matchs, 3 matchs. Paul et Silas, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont prié. Ils ont loué le Seigneur. C'est incroyable, quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient qui nous manque? Hey, ils sont quand même, ils viennent pas de se faire voler leur maison, là. Ils viennent pas de perdre leur salaire. Hein. On a peur de perdre notre travail. Hein. On a peur de perdre ce qu'on a gagné à la sueur de notre front. Hein. Ils sont en prison. Ils n'ont rien. Mais ils ont tout en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils le louent. Ils savent. Ils savent en qui ils ont placé leur confiance. Ils savent, ils s'appuient sur les promesses de Jésus, qu'il ne les laissera jamais tomber. Et que l'évangélisation, ça fait partie de la persécution. La persécution fait partie de l'évangélisation. Et ils louent le Seigneur. Pas parce qu'ils ont prêché ce qu'ils étaient, parce qu'ils ont prêché ce que le Seigneur Jésus était et ce qu'il pouvait apporter aux gens. Regardez la suite ici. J'ai oublié de vous dire qu'ils avaient été jetés en prison parce qu'ils avaient fait une bonne action. Il y a combien de nos frères et sœurs là, dans le monde qui sont condamnés parce qu'ils ont fait une bonne action, c'est-à-dire annoncer le message de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, hein? Ils avaient délivré une femme de l'esprit de Python qui était en elle, et ses maîtres qui profitaient d'elle pour faire de l'argent n'avaient pas aimé ce que Paul et Silas avaient fait. Ils les avaient traînés sur la place publique devant les autorités et ils les avaient fait jeter en prison. Frères et sœurs, il est important de se rappeler de l'œuvre providentielle de Dieu. Il agit dans la vie de toutes les personnes présentes dans ce passage ici. Il contrôle la situation où un geôlier pourra entendre l'Évangile. Il va le faire cette fois-ci à travers la souffrance et la douleur de ses serviteurs. Nous devons nous rappeler que Dieu agit parfois par des moyens insoupçonnés, par exemple, à travers la souffrance. C'est un mot dans notre génération qui est banni. Les gens, même s'ils ne savent pas où ils s'en vont, ils préfèrent mourir que de souffrir. Tu parles avec des gens, c'est ce qu'ils disent. Oh, moi, ça, Mourir, ça, non, non, moi, mourir, ça ne me dérange vraiment pas, hein? Mais c'est souffrir. Moi, je ne veux pas souffrir avant de mourir. Hein? Pourquoi vous pensez que l'euthanasie commence à être si, si populaire? Hein? Les gens ont horreur de souffrir. Hein? Ils ne savent pas ce qui s'attend, ce qui les attend de l'autre côté. Hein? Parce qu'ils diraient comme l'homme juste, l'homme riche, hein? À la tard, envoie quelqu'un avertir. Avertir ceux que je connais, que c'est terrible l'endroit où je me trouve. Et c'est rien, il est dans le séjour des morts, il n'est pas encore en enfer, lui. Hein? Épouvantable. Hein? Allez voir dans les derniers chapitres d'Apocalypse, l'enfer, ce que c'est. Ceux qui sont dans le séjour des morts, ils vont être envoyés dans un lac de feu pour l'éternité. Hein? Il y a deux résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Ils vont ressusciter ceux qui sont dans le séjour des morts aujourd'hui. Hein? Ils vont être revêtus d'un corps aussi éternel. Hein? Et il va souffrir, ce corps-là. Ouais. Psaume 34, 15. Dieu a le cœur, a les yeux tellement purs qu'il est incapable de voir le mal. Dieu est incapable de regarder l'iniquité. Hey. Et on fait de Dieu souvent un bon patriarche, un bon Père Noël. Dieu est tellement pur. Les yeux de Dieu sont tellement purs. Nous avons besoin de nous rappeler, comme ce fut le cas pour Paul et Silas, que nous ne devons pas nous plaindre ou murmurer lorsque nous nous retrouvons nous-mêmes dans des circonstances qui ne nous sont pas nécessairement favorables. Mais louez Dieu que nous soyons dans le besoin ou dans l'abondance. Paul dit, c'est pas moi qui le dis, Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, les bonnes comme les mauvaises, car c'est ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous demande d'être toujours joyeux. Toujours joyeux. Amen. Remarquez ce que Paul et Silas faisaient à minuit parce qu'ils ne pouvaient pas dormir. Remarquez également comment Dieu va répondre à leur prière. Regardez ce qui est écrit à partir du verset 25. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, on est tous ici. » Lorsque Dieu sauva Lydia, il le fit dans le calme, à l'endroit même où elle adorait Dieu. Avec la femme possédée, Dieu savait qu'elle avait besoin d'être délivrée de cet esprit démoniaque qui était en elle, pour le remplacer par le Saint-Esprit. Ici, dans le récit du geôlier, frères et sœurs, Dieu va amener, il connaît le cœur du geôlier, et Dieu va amener le geôlier un petit peu plus loin. Il va lui faire vivre des choses qui vont l'ébranler, qui vont ébranler son esprit orgueilleux, pour le remplacer par un esprit de crainte et d'humilité. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs, il sait exactement ce qu'on a besoin. Dieu, il n'y a pas de formule toute faite pour dire, lui, ça c'est comme ça que ça va, tous les gens vont venir au Seigneur, qui nous connaît parfaitement. C'est merveilleux, ça, non? Il y a combien de femmes qui sont mariées ou combien de maris qui sont mariés et disent, ah, moi, je pensais de le connaître quand je me suis marié, mais je ne le connaissais pas du tout. Ils sont déçus ou ils sont contents, ça, c'est pas mon problème, mais combien il y en a? Le Seigneur nous connaît avant même de nous créer. Merveilleux, quoi. Il sait ce qu'on a besoin. Hein? Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les fit sortir et leur dit, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonça la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien est prêt avec lui. Il a changement de cœur, hein? C'est incroyable. Il y a un texte biblique ici. C'est pas moi qui le dis. Le gardien est prêt avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Il conduisit Paul et Silas dans sa maison et leur offrit à manger. Hey, quel changement, hein? Je ne sais pas si vous connaissez les caractères du geôlier. Bon, on a un gardien de prison ici. Mais à l'époque, les geôliers, ils passaient devant une cellule, bien, il peut crever de faim, hein? Il peut crever de faim, hein? Il peut crever de faim, hein? Et là, on voit, il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il lave ses plaies. Pas mal de partie des plaies que lui-même a provoquées. Et là, il lui donne à manger, quoi. Il est prêt à partager ce qu'il n'aurait jamais partagé avant, quoi. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur a changé son cœur. Et là, il pense aux autres, quoi. Il ne pense pas à son travail, il ne pense pas à sa job, il ne pense pas à sauver sa job. Il pense, je suis sauvé maintenant. Je suis sauvé. J'ai rencontré celui qui change les cœurs, qui bouleverse les vies. Et il lui donne à manger, c'est ce que Paul dit ici. N'est-ce pas incroyable, frères et sœurs? Il y a un réveil à Philippe. Et on jette l'évangéliste en prison parce que, pensant qu'ils vont arrêter le réveil. Mais ils n'arrêteront pas le réveil. Le réveil va simplement se déplacer en prison, frères et sœurs. Parce que le Seigneur avait quelqu'un à les rencontrer là-bas. Et à minuit, Paul et Silas sont en train de chanter, de louer le Seigneur. Les prisonniers, ces brutes, ces malotrus, qui n'avaient jamais entendu des cantiques chrétiens, écoutaient Paul et Silas louer le Seigneur. C'est extraordinaire, non? À minuit, Dieu provoque un tremblement de terre. Les fondations de la prison vont être secouées. Les portes de toutes les cellules vont s'ouvrir. Les chaînes des prisonniers vont tomber. Le gardien, pensant que tous les prisonniers s'étaient évadés, sachant qu'on le tiendrait responsable et qu'on le torturerait à mort, décide de mettre fin à ses jours, mais Paul intervient. Il dit, « Hey, non, non, il n'y a personne qui s'est sauvé. On est tous là. Chut, du calme. Respire par le nez. Du calme. » Avez-vous remarqué que Paul ne dit pas « Quelques-uns sont restés dans leur cellule. » Mais nous sommes tous ici. Aviez-vous déjà pensé à cela? Aucun prisonnier en avait profité pour s'évader. Il y a peut-être des gens qui étaient condamnés à perpète, là. Il y avait sûrement des meurtriers dans cette prison-là. Ils sont tous restés sur les lieux. Ils étaient tellement saisis parce qu'ils venaient d'arriver dans cette prison qu'ils étaient tous restés sur place. Paul va pouvoir annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ au geôlier. Et le geôlier et toute sa famille vont recevoir l'Évangile. L'Église progressait encore et encore parce que Jésus-Christ bâtissait son Église par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous réalisez qu'il y a quelque chose de surnaturel qui a lieu dans cette prison, frères et sœurs? Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe lorsque le Saint-Esprit agit. Dieu dit à Paul, « Non, Paul, tu ne peux pas aller là, va plutôt là-bas. » Alors Paul répondit, « Pas de problème, Seigneur, j'irai là-bas. » Dieu commençant à leur ouvrir les portes et à faire des miracles, et en même temps, Jésus bâtit son Église. Amen. Oui, même s'ils viennent de milieux sociaux, familiaux différents, parce que le Saint-Esprit agit dans l'Église de Philippe, des gens sont nés de nouveau. Nous voyons une femme d'affaires, une femme qui avait été délivrée d'un esprit de Python et un geôlier, être capable d'avoir une communion ensemble. Incroyable, quoi. C'est pas toi, tu es avocat, moi, je suis ouvrier. En Jésus-Christ, il n'y a plus de statut. On est tous capables de se parler parce qu'on puise tous nos paroles dans la parole de Dieu. On est capable de se parler ensemble. Il n'y a pas de classe dans l'Église de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de préféré. C'est merveilleux. Il n'y a pas de complexé. On ne peut pas dire, mais moi, je n'ai pas ma place. Hein. Je n'ai pas fait ma 9e année. Hein. Je n'ai pas fini mon secondaire. Ça n'existe pas avec le Seigneur. C'est extraordinaire, ça, de savoir ça. Que je ne faut pas que j'aie fait l'UNIF pour être qualifié pour le Seigneur pour le servir. Et c'est pas de là que ça marche avec le Seigneur. Hein? On est capable de remplir ici hein, la connaissance. Mais laisser le Seigneur nous remplir de son amour, de sa bonté, des fruits de l'Esprit, ça c'est un autre paire de manches. Ça peut y prendre toute une vie pour y arriver. Hein? Et c'est ici, c'est ça qui nous qualifie. C'est ce qui rentre ici. Pas c'est ce qui rentre là, c'est ce qui rentre ici. Qu'est-ce qui les réunit ensemble, le même message que nous avons entendu, vous et moi, un jour, et qui nous a permis de nous connaître et d'être en communion les uns avec les autres, même si nous venons, pour la plupart, de milieux familiaux différents. Encore aujourd'hui, Jésus continue à bâtir son Église et il utilise des moyens différents pour sauver les gens du jugement à venir. Charles Spurgeon raconte ceci. Charles Spurgeon raconte qu'un homme entra dans une église pour écouter les cantiques, mais qu'il ne voulait pas entendre le sermon. Aussitôt que le pasteur commença à parler, l'homme mit ses doigts dans ses oreilles. Mais au bout d'un certain temps, une bestiole vient se poser sur son visage. Il dut retirer son doigt de son oreille pour la chasser. Et juste au moment où il faisait le geste avec sa main pour la chasser, la bestiole, le pasteur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'homme a écouté ce jour-là, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et il s'est converti. Il y a plusieurs années de cela, un missionnaire servant en Afrique raconta l'histoire d'une femme qui venait à chaque fois au culte avec son chien. Elle s'asseyait toujours en arrière dans le sas, près de la porte, juste à côté de l'allée centrale. Un jour, à la fin de la réunion, lorsque le pasteur lança une invitation à ceux qui voulaient prier pour accepter le Seigneur Jésus, elle s'avança en avant, suivie de son chien qui se tenait toujours juste à côté d'elle. Le mari de la femme était un homme dur et violent. Depuis qu'elle était devenue chrétienne, elle avait tellement changé qu'il se mit à la battre si violemment qu'elle mourut des suites de ses blessures. On ne devait pas tellement s'occuper de faire respecter la loi dans cette partie de l'Afrique parce que l'homme n'a fut jamais arrêté pour son crime. C'est un fait vécu, je vous raconte. Il se retrouva donc seul avec le chien de sa femme. Mais voilà que l'homme commença à remarquer que tous les mercredis soirs vers 19h, non seulement le chien disparaissait pendant 2 heures, mais qu'il répétait la même stratégie, la même chose le dimanche matin vers 9h pour revenir ensuite à la maison vers midi. Perplexe et en même temps curieux, l'homme décida un jour de suivre le chien qui s'était rendu à l'église. L'homme prit un siège dans la dernière rangée pour observer les gens, tandis que le chien allait prendre sa place au même endroit qu'il prenait dans la classe avec sa maîtresse à l'époque. Après le service, l'homme vit son chien s'avancer en avant et prendre place au même endroit où sa femme avait prié. Bon, je ne dis pas que le chien s'est avancé pour prendre une décision. Là. Bon. Maintenant, ceux qui sont incrédules, je tiens à vous rappeler qu'un âne qui a déjà parlé pour reprendre un prophète. Hein. Donc, l'âne n'est pas sauvé. Hein. Ce n'était pas l'âne que le Seigneur visait, c'était plutôt le prophète. Hein. L'homme fut tellement touché par le Saint-Esprit qu'il quitta lui aussi sa place pour s'avancer en avant et donner sa vie à Jésus-Christ. Ce jour-là, Dieu utilisa un chien pour conduire un pécheur endurci à la repentance. Frères et sœurs, Dieu a dit que si on se taisait, il pourrait prendre même des pierres pour convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Dieu a utilisé ici le chien de quelqu'un qui était devenu chrétien pour attirer le mari endurci à l'Église, qu'il entende l'Évangile et qu'il s'avance pour prendre une décision. Les méthodes et les moyens de Dieu sont insoupçonnés. Ils sont indéfinis. Il est possible que nous n'ayons pas une histoire à raconter ce matin qui rassemble à ces deux que je viens de vous raconter, mais si nous questionnons certaines personnes dans la salle pour entendre leur témoignage, nous serions surpris d'entendre les différents moyens que Dieu a pris pour les amener à se repentir et à se convertir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Notre texte nous montre, en terminant, 3 différentes personnes qui ont rencontré Dieu de façon tout à fait différente. Et ces 3 rencontres avec Jésus-Christ nous enseignent que Dieu agit de façon providentielle pour attirer à lui, à travers le message de l'Évangile, des gens venant de milieux tout à fait différents. Ces 3 rencontres peuvent sembler insignifiantes, mais en fait, elles furent le commencement d'un mouvement qui changea l'histoire du monde. Écoutez bien. Je suis certain que l'empereur romain Claude aurait haussé les épaules pour marquer son indifférence si on lui avait annoncé qu'un juif du nom de Paul avait posé le pied sur le sol européen pour parler aux gens de Jésus-Christ. Claude, à ce moment-là, avait des problèmes beaucoup plus importants à régler en tant qu'empereur romain. Et pourtant, c'est à Philippe que le christianisme va voir le jour en Europe et que son influence changera la face du monde. À travers 3 personnes, une marchande, une femme possédée et un geôlier, Jésus a bâti son Église à travers ces 3 personnes. Il a ajouté à son Église. Après ça, le Saint-Esprit a dit à Paul, « Tu as fait ton travail ici maintenant, tu vas aller à un autre endroit. » Et ça s'est répandu à partir de Philippe. L'Évangile s'est répandu en Europe. L'Amérique a besoin d'être colonisée, mais elle a eu besoin aussi d'être évangélisée. Le premier bateau qui a atterri en Amérique à Plymouth, ce sont des chrétiens évangéliques, des Quakers qui ont descendu, qui ont débarqué. L'Évangile s'est répandu aussi en Amérique. Frères et sœurs, nous qui ne connaissons pas l'avenir, on peut lire ça, on dit, ah, Philippe, hein? C'est où ce Philippe, ça a la carte, ça a l'air d'un point d'acné, là, un point loin d'acné, c'est pas grand-chose, quoi. Hein? Mais c'est à travers ce petit point, cette petite place, que l'Évangile va se répandre partout sur la terre. Hein? C'est vrai qu'il y a eu la persécution dans les livres des Actes. Mais Paul, qui est l'apôtre des païens, Dieu va l'utiliser à partir de ces 3 personnes-là pour répandre l'Évangile partout. Frères et sœurs, je ne veux pas vous rêver, là. Je ne veux pas vous faire rêver. Pouvez-vous imaginer ce que Dieu pourrait faire dans cette Église avec une petite poignée de personnes qui voudraient simplement mettre du temps à part durant la semaine pour aller annoncer le message qui les a transformés, qui les a bouleversés? Maintenant, je vais aller plus loin que ça. Pourriez-vous croire dans votre cœur avec sincérité 83 personnes ici assez audacieuses qui voudraient prêcher l'Évangile, que Dieu pourrait bouleverser la province de Liège, que Dieu pourrait faire un réveil à Bruxelles, que Dieu pourrait transformer la Belgique. À partir de 3 personnes, un évangéliste qui écoute la volonté de Dieu, 3 personnes qui sont animées de l'Esprit de Christ et qui se disent, moi, je sais où est mon espérance. Peu importe ce qui m'arrive, le Seigneur est à mes côtés. Le Seigneur va m'accompagner toute ma vie, c'est ce qu'il me promet. Est-ce que c'est un rêve ou ça peut être une réalité? Est-ce que ça va rester, ça va se limiter uniquement à une question de rêverie ou si ça peut être une réalité dans vos vies? Mais il y a un prix à payer. Hein? Le Seigneur Jésus doit occuper la première place dans nos vies. Et la résurrection de Jésus-Christ ne doit pas être simplement une question de mots, mais une réalité dans votre vie, dans la mienne. Est-ce que c'est le cas ce matin? Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que c'est une question de mots ou c'est une réalité dans vos vies? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a mémorisé ou si c'est une réalité dans nos vies? Parce que si Jésus-Christ est réellement ressuscité, que si vous y croyez par la foi, il est capable d'accomplir les mêmes miracles qu'il a accompli à Philippe à travers les 3 personnes qui étaient là. Il est capable à travers vous d'accomplir ces mêmes miracles à l'extérieur dans la génération dans laquelle on vit. Il y a un prêt à payer. Il faut que les choses du monde soient sorties de notre cœur et que tout ce qui vient de Dieu rentre dans notre cœur, que Jésus règne dans nos vies. Et on va voir Dieu accomplir des miracles extraordinaires. À tel point qu'on va dire, comme un certain prophète dans l'Ancien Testament, « Assez, Seigneur, assez. Assez, Seigneur, je pense de mourir. Assez, Seigneur. Arrête de déverser, Seigneur. Je pense que je vais mourir. » Pensez-vous qu'en Jésus-Christ, Dieu peut vous qualifier pour partager ce message? Ben oui, hein? Ne vous fiez pas sur votre pasteur, c'est le pire pour annoncer l'Évangile. Vous, quand vous rencontrez quelqu'un, ne dites jamais, attends un peu, je vais amener mon pasteur, c'est mortel, ça coupe. Va partager ton témoignage. Ils n'ont pas juste besoin d'entendre que des versets. Va partager ton témoignage. Si ton témoignage reflète la personne de Jésus-Christ, l'Esprit va travailler. Et sans t'en apercevoir, tu vas citer des Écritures. Tu seras une page ouverte. Et les gens vont être capables de lire dans ton cœur ce que tu vis. Amen. Ça veut dire qu'il est temps que j'arrête. Qui est celui qui nous unit ensemble? Quel est son nom? Jésus. Celui-là même qui nous permet d'être en communion les uns avec les autres à travers l'Évangile. Les gens ne comprennent pas cela. Ils se disent, ils se rassemblent et ils forment une foule nombreuse. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des numéros éparpillés sur la surface de la terre. À travers une grande foule, nous sommes l'Église, nous sommes une grande famille, la famille de Dieu. Jésus est non seulement notre ami, Jésus est notre frère. Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, je te remercie de nous permettre d'être dans ce lieu ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour avoir ouvert le cœur de Lydia à l'époque de l'apôtre Paul, parce qu'elle s'est donnée à toi. Je me réjouis, Seigneur Jésus, que tu aies sauvé le geôlier ainsi que cette servante qui était esclave d'un mauvais esprit et plongée dans l'occultisme. Je sais que tu peux encore délivrer aujourd'hui. Pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, s'il y a des gens qui n'ont pas l'assurance de leur salut ce matin, s'il y a des gens qui n'ont pas la certitude que si aujourd'hui, comme le jeune homme de 17 ans, Juppé, qui s'est fait arracher la tête en fait cette semaine là, à une intersection, qui est mort, 17 ans, c'est jeune pour mourir. Mais si vous n'avez pas l'assurance, vous sortez dehors aujourd'hui, Dieu vous rappelle à lui par différentes circonstances. Si vous n'avez pas la certitude de savoir où vous allez passer l'éternité, je vous invite à prier. Seigneur Dieu, je suis un pécheur. Je reconnais mon besoin d'être sauvé du jugement à venir. Je reconnais que mon péché mérite que je sois condamné, mais je reconnais mon besoin d'être pardonné. Pardonne mon péché. Purifie mon cœur. Sauve-moi, Seigneur Jésus, car tu as payé le prix pour mon péché en versant ton sang sur la croix pour moi. Tu es sorti vivant du tombeau, tu es ressuscité, tu as promis que tu me sauverais si je croyais en toi. Je crois en toi, je crois en ton sacrifice comme étant le seul moyen de voir tous mes péchés être effacés. Seigneur Jésus, aide-moi à ne jamais avoir honte de toi. C'est en ton nom que je t'ai prié. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, je ne ferai pas d'appel ce matin, je ne ferai pas lever la main, venez me voir après le culte et je vous donnerai les informations pour débuter votre vie chrétienne sur des bases bibliques. Je vous invite à vous lever, on va chanter un dernier cantique. Et tout de suite, je vais demander aux non-membres, quand on termine la cantique, de descendre au sous-sol, on va aller vous retrouver dans 10 minutes maximum. Et pendant qu'on chante ce cantique, j'inviterai les préposés aux offrandes à passer parmi vous. Alors, ça s'adresse aux membres, s'il y a des sympathisants qui veulent donner aussi, c'est pour le soutien missionnaire.